Les As de la CoPro, les questions CoPro.
Bonjour, j'habite dans un immeuble à Nantes. Nous avons un copropriétaire dans l'immeuble qui est un très mauvais payeur et qui nous doit la somme de 5000 euros pour ses charges. En même temps, donc, ce copropriétaire a eu un dégât des eaux chez lui et au niveau de l'assurance de l'immeuble, nous devons recevoir 11 000 euros pour ses dommages. La question est la suivante, est-ce que le syndic qui va recevoir donc les 11 000 euros peut faire une compensation et garder la différence pour remettre à zéro le compteur du copropriétaire qui est débiteur? Donc merci aux As de la CoPro pour leur éclairage.
Ok, bon donc Sabrina, la question elle est simple, j'ai un copropriétaire qui doit 5 000 euros, il doit 11 000 euros, il doit 5 000 euros, je dois lui verser une indemnité d'assurance parce que ça passe par l'assurance donc ça, de l'immeuble, ça lui revient 11 000 euros, je fais une compensation, je garde la différence, je me fais justice.
Alors,
possible ou pas possible?
Alors j'ai envie de dire qu'on aurait tous envie de se faire justice, mais il y a quand même quelques règles à respecter. Alors si on se place du point de vue peut-être de la compensation des dettes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on a un copropriétaire qui doit 5000 euros de charges au syndicat des copropriétaires, et on a une indemnité d'assurance qui est versée certes par l'assurance de l'immeuble, mais qui revient directement au copropriétaire. En tout cas, c'est la question qui nous est posée. Est-ce que je peux juste compenser? Est-ce que moi je peux me faire autorité seule et puis dire, bah voilà, je compense, finalement vous me devez 5000 euros, je vais vous en verser 11 000. Bon, bah, on va compenser, je vous verserai que 6 000. On aurait tendance à vouloir faire cela. Donc, on parlera après peut-être des pratiques. Exactement. Dans le Code civil, il y a l'article effectivement 1347 qui parle d'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux débiteurs. Ça peut être effectivement dans ce cadre-là qu'on s'imagine pouvoir compenser ce type de dette. Toutefois, il y a aussi la réciprocité de la dette, c'est-à-dire qu'il faut que le débiteur soit dans un sens comme dans un autre, le débiteur et le créancier soient les mêmes. Donc là, dans ce cas de figure, typiquement, on a le copropriétaire qui doit 5 000 euros au syndicat des copropriétaires. Mmh. Toutefois, c'est l'assurance qui doit donc 11 000 euros, pas au syndicat des copropriétaires, mais au copropriétaire lui-même. Pardon, j'étais loin du micro, donc on ne m'entendait pas. Donc, effectivement, donc dans ce cas de figure, la réciprocité ne s'applique pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même débiteur d'un côté comme de l'autre. Donc, on aurait envie, effectivement, comme on l'a dit au départ, de se dire, bah, on compense ces deux dettes. Eh bien, on ne peut pas le faire. Il y a aussi autre chose qui vient nous l'interdire, c'est le Code des assurances. Le Code des assurances vient préciser clairement que, dans son article L121-12, que l'indemnité doit être versée au bénéficiaire effectif du dommage. Et pour cause, le bénéficiaire du dommage a subi un dommage. Donc ça vient réparer son dommage. Il va devoir engager, logiquement, des travaux de réparation dans son lot. En tout cas, c'est comme ça que l'assurance l'aura défini. Dans ces conditions-là, il va falloir verser ces 11 000 euros au copropriétaire. Donc je dirais, pour quand on analyse un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, je dirais qu'il y a deux choses. Bah, déjà, le copropriétaire débiteur, le syndic, lui, bah, j'ose espérer, et en tout cas, si ce n'est pas le cas, je lui conseille vivement d'avoir engagé une procédure de recouvrement classique pour les charges qui lui sont dues. Et peut-être que dans un second temps, si je perçois une indemnité de 11 000 euros à reverser à ce copropriétaire, eh bien de prendre contact, attache avec lui, de lui proposer peut-être un protocole d'accord transactionnel, s'il en est d'accord, mais il faut obtenir son accord sur ce type de compensation.
La voie de la sagesse.
Ça, c'est la voie de la sagesse. En pratique, parce que je sais que Gilles, vous allez me demander si en pratique, est-ce qu'on agit comme ça? En pratique, il arrive que ces compensations soient faites, mais attention. Attention à cela, parce que c'est de la rétention abusive, en fait, d'une somme.
On fait, donc, puis on voit ce qui se passe.
Voilà, il y a certains syndics qui prennent le pli de dire...
Le gestionnaire est quelqu'un de très pragmatique.
Pragmatique.
Qui défend les intérêts du syndicat des copropriétaires.
Tout à fait. Mais ne pas se mettre non plus en danger. Il pourra engager une procédure. Évidemment, quelqu'un qui est déjà en défaut, peut-être qu'il le fera un peu moins, se sentira certainement moins à l'aise pour aller attaquer le syndicat des copropriétaires et son syndic pour avoir retenu ces sommes. Donc j'entends qu'en pratique, on l'a tous fait. On le fait tous. Attention tout de même. Voilà la règle qui vous est donnée. Toutefois, rien ne nous empêche de prendre attache avec ce copropriétaire et lui proposer cette compensation.
Il y a un cas dans la loi de 65 où on peut faire une compensation, c'est à l'article 16-1 pour les ventes de parties communes.
Oui,
et exact. Là, il est bien indiqué dans la loi, donc c'est expressément prévu par la loi, que lorsqu'on vend une partie commune, la quote-part qui revient à chaque copropriétaire, on peut déduire
Tout à fait.
Les dettes du copropriétaire avant de lui reverser la quote-part qui lui revient sur ce prix de vente de bout de couloir, de WC commun, etc. Mais c'est un cas qui est expressément prévu par la loi. Et d'ailleurs, ça a été rajouté à la loi Elan, je crois de mémoire, ce petit cas où on peut faire une compensation.
Là, on peut faire une compensation, mais en plus, cet exemple est parfait parce que pour le coup, le débiteur est le même. Donc, on parle bien des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires. Là, on a l'assurance qui entre en jeu. Donc, on a un tiers qui verse une somme et le code des assurances est très clair. Il y a aussi un autre cas particulier, et je crois que c'est le seul, c'est si le contrat d'assurance prévoit des dispositions contraires, auquel cas on pourrait disposer de ces fonds pour le compte du syndicat des copropriétaires et le reverser sur le compte du copropriétaire. Mais c'est des cas très rares. En tout cas, moi, je ne l'ai pas lu dans des contrats que j'ai pu contrôler à ce jour. Voilà.
Merci Sabrina.
Je vous en prie.
C'est très clair et on passe à la deuxième question du copropriétaire.
Bonjour, je suis copropriétaire dans un petit immeuble à Bordeaux. Notre immeuble présente pas mal de désordres et nous avons reçu un arrêté de péril de la mairie. Nous sommes pas mal inquiets. Que doit faire notre syndic dans ce cas de figure? Je vous remercie.
Arrêté de péril sur un immeuble, quel est le rôle du syndic, Alexis?
Alors, le syndic, dans ce cas de figure, évidemment, a un rôle central puisqu'il représente les intérêts du syndicat des copropriétaires. Alors, il faut savoir qu'il y a une nouvelle appellation depuis janvier 2001. L'arrêté de péril ordinaire... 2021, pardon. L'arrêté de péril ordinaire devient un arrêté de mise en sécurité. Et l'arrêté de péril imminent devient la procédure d'urgence de mise en sécurité. Alors, il y a un changement un petit peu de sémantique sur le sujet. Alors, ce sont toutes les dispositions des articles L511-1 jusqu'à 22 du Code de la construction. Donc, on l'aura compris, l'arrêté d'urgence, hein, c'est lorsque le danger est immédiat, et l'arrêté de mise en sécurité, c'est lorsque le danger n'est pas encore immédiat, mais que, effectivement, ça nécessite, de manière impérieuse, malgré tout, la réalisation de travaux. Alors, je vais un peu procéder, alors je ne vais pas aller rentrer trop dans le détail, parce que c'est assez technique, mais de manière générale, sur les acteurs, sur les différents acteurs, et qui prononce cet arrêté. Alors, déjà, toute personne peut déjà signaler un problème de sécurité qui concerne un bâtiment. Ça, c'est un locataire ou un propriétaire, voire potentiellement des tiers, hein, pourrait très très bien signaler des éléments sur le bâtiment. Mais évidemment, il en revient en général au maire ou l'établissement public, de faire constater les faits spécifiquement avec les services municipaux compétents. Donc si la sécurité des habitants ou des tiers n'est pas menacée de façon immédiate, le maire adresse un courrier au syndic de copropriété qui indique qu'une procédure de mise en sécurité pourrait être engagée. Donc on le verra après sur les actions du syndic. Et deuxièmement, si la sécurité des habitants ou des tiers est menacée de façon immédiate, le maire peut saisir directement le tribunal administratif afin qu'un expert soit désigné. Et ensuite, ce dernier interviendra dans le cadre de l'urgence et de manière immédiate et potentiellement sans convoi. Et le maire disposera effectivement de la possibilité d'opérer cet arrêté sans contradictoire, sans convoquer le syndic. Il faut savoir que aussi depuis notamment Elan, avec le plan pluriannuel de travaux, alors je ne pense pas qu'il y ait déjà des cas qui sont arrivés, quoique peut-être que si, c'est que dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police et de sécurité et de salubrité des immeubles, dorénavant, hein, l'autorité administrative compétente peut à tout moment aujourd'hui demander au syndic de lui transmettre les plans pluriannuels de travaux. Puisqu'effectivement, pour vérifier s'il y a des travaux de programmés pour garantir la sauvegarde de l'immeuble.
Alors justement, les réflexes du syndic.
Alors, les réflexes du syndic, c'est que dès qu'on reçoit les éléments de la mairie. Alors, puisque effectivement, le syndic est généralement principalement le premier destinataire de cet arrêté de mise en sécurité. Donc, première chose à faire, le syndic a l'obligation d'informer immédiatement, c'est vraiment sans délai, l'ensemble des copropriétaires de l'existence de l'arrêté.
Il leur envoie tous la copie de l'arrêté.
La copie de l'arrêté, notifiée en recommandé, par mail, par tout moyen, la connaissance de cet arrêté. Alors ensuite, il faut constater que le défaut de transmet. Alors, il y a même si le syndic ne transmet pas de manière immédiate l'information aux copropriétaires, ça ne remet pas en cause le point de départ, puisque le syndicat va avoir 2 mois pour formuler des observations sur certains cas. Hein. C'est le R511-511-10 qui dispose que le syndic dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à 2 mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par l'autorité compétente. Donc les observations, c'est quoi ? C'est les observations sur le fait que potentiellement il y a peut-être déjà une programmation de travaux à réaliser dans les semaines, voire le mois à venir. Donc en tant que syndic, il faut analyser la situation, prendre les mesures d'urgence, donc on évalue les risques.
Les mesures conservatoires. Les étais, on envoie l'architecte.
On peut aussi solliciter l'ANA pour récupérer des subventions, puisque c'est possible. Hein, L'ANA peut transmettre un certain nombre de subventions. On organise l'Assemblée générale pour effectivement discuter des travaux à réaliser. À l'ordre du jour, on propose les résolutions de travaux, sachant que c'est de l'article 24, très spécifiquement.
Donc, ça veut dire que préalablement, le syndic a mandaté l'architecte pour qu'il fasse un descriptif,
un appel d'analyse, un appel
avec les devis.
Classique, finalement, une procédure
c'est
classique.
C'est des travaux.
Classique de travaux. Alors, il se peut que, au titre de cet arrêté, il puisse y avoir parfois des défaillances. Alors, des défaillances d'un ou plusieurs copropriétaires. Donc, lorsque l'inexécution des travaux et des mesures prescrites par l'arrêté de mise en sécurité résulte de la défaillance d'un ou plusieurs copropriétaires, le syndic informe l'autorité compétente en lui indiquant les démarches entreprises, parce que ça peut arriver.
C'est souvent le cas. Hein.
Sont réputés défaillants, donc on nous dit, c'est en général la défaillance.
C'est pour ça qu'on s'est retrouvé
en mise en demeure. Bah, en général, oui. Lorsque l'arrêté est relatif à des parties communes, parce que parfois l'arrêté peut cibler les parties communes uniquement, à l'expiration du délai qui sera fixé par ce même arrêté, et si les mesures n'ont pas été réalisées, les copropriétaires sont redevables du paiement potentiellement d'une astreinte. C'est-à-dire que l'autorité administrative peut affecter une astreinte, en général à 1 000 euros. Donc ça, c'est des éléments extrêmement importants, puisque au titre du texte et des différents textes, l'inexécution, elle peut résulter soit de l'absence de décision du syndicat des copropriétaires. Il se peut aussi qu'effectivement, ça, on a des cas où, malgré la convocation de l'Assemblée générale, le syndicat se prononce par la négative. Dans ce cas, le montant de l'astreinte est notifié par l'arrêté de l'autorité publique à chacun des copropriétaires. Et puis on a le second cas où c'est le syndic de copropriété atteste que l'inexécution des travaux prescrits résulte de la défaillance de certains copropriétaires à ne pas avoir répondu, par exemple, aux appels de fonds. Donc cette astreinte, elle est liquide et exigible. Et effectivement, ce sont des points extrêmement importants, puisque ces deux astreintes peuvent être cumulatives. C'est-à-dire qu'à la fois une astreinte au titre des parties privatives, plus une astreinte au titre des parties communes. Donc le rôle du syndic est central pour faire en sorte que, effectivement, en communiquant ces catégories, que les travaux se réalisent. Donc, effectivement,
article
comme
24,
article 24, classiquement.
C'est des travaux d'entretien, article 24.
Travaux d'entretien, article 24. Il va coordonner les travaux avec la présence d'un maître d'œuvre. Et puis, il fait le lien avec les différentes autorités.
Donc, communication de crise aussi pour le syndic.
Communication de crise.
Du début à la fin.
De toute façon, oui, puisque, effectivement, là, il y a une sensibilité extrêmement forte sur le sujet.
Faire des réunions d'information, répondre aux copropriétaires individuellement quand ils vous appellent.
Exactement, puisqu'effectivement, c'est un certain nombre de conséquences, notamment, puisque en fonction des mesures, notamment d'urgence, typiquement pour les copropriétaires bailleurs, il faut reloger le locataire, suspension du paiement des loyers, donc c'est toute une organisation
comme
réaliser.
Quand on a un sinistre incendie, un peu de la même manière.
Exactement la même chose.
Et à la fin,
il faut, toujours avec les autorités, il faut constater pour pouvoir lever l'arrêté. Donc ça, c'est la constatation qui doit être établie par l'autorité administrative pour attester de la réalisation des travaux. Et à cette fin, donc, la constatation peut se faire par tout moyen, sur place, mais c'est l'autorité administrative qui va pouvoir lever l'arrêté qu'elle a...
Donc un arrêté de main levée.
De main levée.
Ça, c'est le but, c'est l'objectif ultime pour le syndic.
Pour le syndic. Et donc, effectivement, ce qui fait dire qu'effectivement... Mais comme tout au titre de sa mission, je dirais classique et globale, le syndic est un personnel central de la gestion de crise de ces arrêtés.
Il a une mission de conservation et d'entretien de l'immeuble. D'ailleurs, en un mot pour terminer, vous me disiez que vous en aviez connu quelques-uns des arrêtés de péril quand vous étiez à Marseille.
Un peu moins de 200, oui.
200.
Donc, 200 immeubles.
Gestion de crise, là.
Gestion de crise et plus que la gestion de crise, la mise en place d'un pôle habitat dégradé et d'un pôle sécurité au sein de la métropole marseillaise en lien avec tous les organes, hein, Alexis, que vous venez de décrire, et avec un véritable mode projet sur ces sujets-là, parce que nos copropriétaires, donc du coup, vous l'avez rappelé, mais voilà, pas plus, pas moins, mais voilà, une vraie expertise et une vingtaine de personnes à Marseille aujourd'hui qui s'occupent de ça.
Très bien, comme ça le syndic ne subit pas la situation,
exactement,
il la domine.
Exactement.
C'est ce qu'on attend des professionnels, c'est ce que les copropriétaires attendent des professionnels. Je vous remercie à tous, Alexis, Sabrina, Zahir, pour votre participation. Et on arrive au terme de cette émission. Je vous dis à la prochaine.
À la prochaine, continue. Merci.
C'est tous les
merci.
Deux mois maintenant, hein, je le rappelle. Allez, ciao.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.